Donc, je voudrais vous parler ce soir d'espace courbe, qui est un sujet mathématique, même s'il a inspiré d'autres que des mathématiciens. Donc, je vous propose d'abord de vous montrer le plan que je compte suivre. D'abord, où se situe le problème des espaces courbes? Il y a un problème sémantique tout autant qu'un problème de concept. Et en fait, historiquement, on a mis très longtemps, plusieurs millénaires dans l'histoire des mathématiques avant d'avoir un concept bien défini d'espace courbe. Je voudrais passer quelques minutes à faire une fresque extrêmement rapide d'Euclide à Gauss, qui est un mathématicien qui a vécu à la fin du XVIIe siècle, pour arriver au début du XVIIIe siècle à la création des nouvelles géométries, les premières qui montraient le phénomène de ce que sont les espaces courbes. Ce phénomène s'est amplifié au milieu du XIXe siècle et dès la fin du XIXe siècle, il était possible d'utiliser les espaces courbes vraiment comme des outils pour donner de nouveaux modèles mathématiques à tout un tas de sujets extrêmement différents. Et enfin, je voudrais terminer par une présentation des développements les plus récents, qui, comme vous le verrez, mélangent des choses extrêmement différentes et nous rapprochent d'autres sujets scientifiques. Alors peut-être, comme vous savez, les mathématiciens attribuent énormément d'importance aux définitions. Et quoi de mieux pour trouver des définitions que d'aller voir dans un dictionnaire? Donc j'ai essayé pour espace courbe de regarder ce que disaient les dictionnaires. Et j'étais un petit peu déçu puisque le petit Robert, dans une très vieille édition, parle en ce qui concerne l'espace d'un lieu plus ou moins délimité où peut se passer quelque chose. Si on se réfère au philosophe, au moins par respect par rapport à la personne qui m'a gentiment introduite, Emmanuel Kant dit très explicitement en ce qui concerne l'espace que l'espace est une forme a priori de la sensibilité extérieure qui porte déjà un poids un peu plus substantiel. Enfin, la version la plus récente du petit Robert, quand même, laisse entendre que l'espace est une chose qui s'est généralisée, puisque la définition du petit Robert est un milieu conçu par l'action de l'espace. Excusez-moi, j'ai oublié d'écrire ordinaire à trois dimensions. Donc il n'y a pas de doute que les mathématiciens ont fait des espaces un de leurs objets privilégiés. Ils en ont élargi le concept, ils en ont généralisé les définitions. Alors c'est en fait sur le mot courbe que je suis le plus déçu, parce que vous allez voir que ce qui va nous occuper pendant tout cet exposé, c'est vraiment d'essayer de concevoir ce que peut être un espace à plusieurs dimensions qui soit courbe en lui-même. Or justement, les définitions qu'on trouve dans les dictionnaires s'acharnent à nous dire que la notion de courbe est une notion qui n'a qu'une dimension. Donc le petit Robert donne comme définition de l'adjectif courbe qui change de direction sans former d'angle, donc on est vraiment dans des objets unidimensionnels qui n'est pas droit. Et vous verrez que pour nous, le mot très important, ce sera qu'un espace courbe n'est pas plat, ce qui n'est pas la même chose que n'est pas droit. Mais malgré tout, d'autres personnes ont conçu des espaces courbes sans avoir besoin de définition, par exemple Vasarely, qui a proposé des espaces qui nous suggèrent indiscutablement qu'il se passe quelque chose dans la structure de l'espace qui le rend différent, et donc en particulier qui peut le rendre courbe. Et je pense qu'il n'est pas inutile de faire une citation de Julien Gracq, qui écrivait en 1961: Alors, comme un enlisé qui lève la main frénétiquement hors du sable avant de consentir à sa nuit, il y avait encore des gens du monde pour contester passionnément, dans une crise de colère rouge, que l'espace fût courbe, comme le voulait Einstein, des préposés au balisage pour ricaner rageusement de la dérive des continents. Donc il n'y a pas de doute que, y compris pour des écrivains, les espaces courbes existent. Donc si vous le permettez, je rentre dans ma première partie qui consiste à, disons, retrouver ce parrainage extrêmement important pour les mathématiciens d'Euclide. Donc un des livres les plus importants de l'histoire de l'humanité sont les éléments d'Euclide. Donc, comme vous savez, il n'existe plus aucune édition originale. En tout cas, dans les éléments d'Euclide, Euclide définit des éléments de géométrie, donc définit la géométrie de façon, comme on l'appelle aujourd'hui, synthétique. C'est-à-dire, pour lui, il existe, pour faire de la géométrie, des objets qu'on distingue, qu'on identifie, qui sont les points, qui sont les droites, qui sont les plans. Et ces objets existent en eux-mêmes. C'est, disons, le premier début dans les mathématiques d'une approche axiomatique, dans lesquels les objets sont définis en eux-mêmes, sans penser trop, comme on le fera beaucoup plus tard, qu'en fait les droites sont des collections de points ou les plans sont des collections de droites. Et en particulier dans les axiomes d'Euclide, pour définir la géométrie, apparaît un axiome extrêmement important qui a été l'objet d'une étude acharnée au cours de l'histoire, qu'on appelle l'axiome des parallèles. Et je l'ai cité ici comme un problème parce qu'effectivement, cet axiome des parallèles intervient dans les éléments d'Euclide pas tout à fait au début, donc après d'autres axiomes. Donc je vous rappelle ce qu'est cet axiome des parallèles, bien connu, élémentaire, consiste à dire que je prends un point P en dehors d'une droite delta, tout ça se passe dans un plan, eh bien, l'axiome des parallèles affirme que par ce point, il existe une et une seule droite, que j'ai appelée delta prime, qui est parallèle à la première. Donc voilà cet axiome des parallèles. Et pourquoi est-ce qu'il a posé problème? Eh bien, très tôt, les gens se sont inquiétés de son indépendance par rapport aux autres axiomes des éléments d'Euclide, donc de savoir s'il n'était pas possible, en fait, de faire de cet axiome des parallèles, en fait, un théorème. Autrement dit, de pouvoir le déduire des autres propriétés qui étaient posées comme axiome auparavant. Et ça, ça a donné lieu à une recherche absolument passionnée, qui, en fait, n'a pas débouché, comme nous allons le voir, mais qui, malgré tout, a joué un rôle extrêmement important, comme un problème purement académique, mais qui a stimulé une recherche extrêmement féconde pour comprendre comment pourraient être faites des géométries dans lesquelles l'axiome des parallèles serait violé. Et en fait, pour Euclide, bien entendu, si cet axiome des parallèles était une conséquence des autres axiomes précédents, ça veut dire d'une certaine façon que cette géométrie telle que Euclide la définissait aurait donc une validité universelle qu'elle a eue pendant plusieurs millénaires. Donc, pendant très longtemps, le seul modèle possible de géométrie était la géométrie d'Euclide avec cet axiome des parallèles. Alors, pour quitter le monde euclidien et celui donc des droites et des points, je vous propose en fait de faire une petite promenade avant d'arriver dans les espaces, dans les espaces à une dimension. Autrement dit, je vais m'intéresser à une courbe que j'ai dessinée là de façon très simple. Et en fait, quels sont les outils qu'on a pour analyser une courbe? J'ai envie de la comprendre, j'ai envie de en fait la rendre plus simple. Alors, la première idée qu'on peut avoir, puisque les outils géométriques qu'on a dans la géométrie d'Euclide, c'est quand même fondamentalement des droites, qu'est-ce qui pourrait, disons, simplifier la courbe? Eh bien, une première idée qu'on peut avoir, c'est évidemment pour cette courbe de lui trouver ses tangentes, autrement dit des droites qui passent par un point de la courbe et qui approximent la courbe du mieux possible au voisinage de ce point. Donc je vous ai dessiné ici deux droites tangentes à la courbe. Vous voyez bien que parce que la courbe est courbe, évidemment, elle s'éloigne de ses tangentes très régulièrement. Alors évidemment, dès qu'on a défini les droites, comme disons les courbes tangentes, donc qui sont des droites, on peut chercher d'autres courbes qui pourraient être intéressantes. Et dans l'arsenal euclidien, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, on trouve en particulier les cercles. Donc on peut s'intéresser, maintenant qu'on a fait des droites tangentes en un point, enfin, quand la courbe est régulière, on a évidemment une seule tangente en un point, on peut chercher des cercles qui sont eux-mêmes tangents à cette courbe. Alors vous voyez, je vous ai dessiné un très petit cercle qui est tangent, je vous ai dessiné un très grand cercle qui est tangent, et quand on regarde bien la situation, pour le petit cercle, il est tout entier d'un côté de la courbe, et pour le très grand cercle, il est tout entier d'un autre côté. Et alors ça, si on commence à avoir un petit sens mathématique, alors évidemment, ces cercles, ils ont une propriété importante, c'est qu'ils sont tous centrés sur la normale à la courbe au point où on les considère. Autrement dit, ils sont tous centrés sur une droite qui est perpendiculaire, évidemment, à la tangente. La normale est perpendiculaire à la tangente. Et alors, du coup, pour revenir à mes cercles, vous voyez que s'il y en a un qui est tout entier d'un côté, un autre tout entier de l'autre, ça donne vraiment l'idée qu'il y a un moment où il doit se passer quelque chose. Il y a un moment où le cercle passe d'un côté à l'autre. Et la façon dont il passe de l'un côté à l'autre, en général, est une façon extrêmement intéressante, c'est ce qu'on appelle le cercle osculateur. Et donc ce cercle osculateur, il a la propriété qu'au moment où on arrive à ce cercle osculateur, ça n'est pas vrai avant, ça n'est pas vrai après, le cercle a la propriété que d'un côté, il est dedans, la courbe, et de l'autre côté, il est de l'autre côté. Autrement dit, à cause d'un contact extrêmement fort avec la courbe, pour ce cercle très spécial, qui est lui aussi centré sur la normale, excusez-moi mon empilement de donne une idée un peu fausse, mais il est bien aussi son centre est aussi sur la normale. J'ai donc un cercle très particulier, qu'on appelle le cercle de courbure en ce point de la courbe, qui a cette propriété d'épouser la courbe encore mieux que tous les autres cercles. Et évidemment, le rayon de ce cercle va jouer un rôle très important, c'est ce qu'on appelle le rayon de courbure de la courbe en ce point-là. Donc, vous voyez que pour une courbe, quand on commence à l'analyser, on a vu qu'avec les tangentes, on pouvait faire un certain nombre de choses, mais ce n'était pas très riche. Il y a une analyse plus fine qui vient de l'utilisation de ce qu'on appelle les cercles de courbure, donc qui ont un rayon de courbure. Donc, vous voyez que pour une courbe bleue, en chaque point de cette courbe, on peut lui associer un nombre bien particulier, qui est justement ce rayon de courbure. Alors, évidemment, il y a des points particuliers. Vous voyez que cette courbe passe d'une concavité dans un sens à une concavité dans un autre. Et évidemment, il arrive un point qu'on appelle un point d'inflexion sur la courbe où brusquement, eh bien, le rayon de courbure devient infini. Autrement dit, le centre du cercle est rejeté à l'infini. Donc juste quand on passe de ce régime-là à ce régime-là, on trouve un point d'inflexion. Alors ça va être vraiment l'analyse de base qu'on va utiliser pour essayer de comprendre ce qui nous intéresse, qui ne sont pas des objets à une dimension comme les courbes, qui sont des objets à deux dimensions. Donc, je passe maintenant à l'étude d'une surface. Et donc, l'étude d'une surface, je vais partir d'un bout de surface, très, très bête. Évidemment, après, j'essaierai d'aller dans des espaces à plus de dimensions, mais commençons par des choses concrètes. Donc, j'ai une surface et je veux l'analyser. Alors, quelle idée on peut avoir? Bien, l'idée la plus simple qu'on puisse avoir pour analyser la surface, c'est de se dire, c'est un objet à deux dimensions, c'est trop compliqué. Essayons de le ramener à une dimension. Et comment peut-on faire? Ben, une façon de le faire, c'est tout simplement de la couper par un plan. On revient encore à l'idée euclidienne que les objets simples, c'est les droites, les plans. Donc on va prendre un plan, et alors on ne va pas prendre le plan tout à fait n'importe comment, on va prendre le plan en un point de la surface, telle sorte qu'il contienne la normale à la surface. Vous voyez bien que si je prends une surface, les objets les plus simples, si je reprenais le principe que j'ai développé tout à l'heure, d'approximer une droite par une tangente, eh bien pour une surface qui va approximer la surface, c'est un plan tangent, je ne l'ai pas dessiné ici pour éviter de surcharger le dessin. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement, je vais prendre cette fois la droite qui est perpendiculaire au plan tangent, donc qui est une droite normale, et je vais m'intéresser à tous les plans qui contiennent les droites normales, et je vais faire pivoter ces plans. En tout cas, quand j'en prends un, comme ce plan P, qui est un plan normal, eh bien, évidemment, ce plan va me faire apparaître une courbe, qui est l'intersection du plan et de la surface. Et alors, pour cette courbe, il n'y a pas de doute, puisque, comme je vous l'ai expliqué, en tout point d'une courbe, j'ai un invariant extrêmement important, qui est le rayon de courbure. Donc, je peux m'intéresser, pour cette courbe, à son rayon de courbure. Et donc, vous voyez que quand je m'intéresse à la surface S, si je prends un plan normal, associé à ce plan normal, je peux associer le rayon de courbure dans ce plan. Alors, il se trouve que les mathématiciens ont préféré, plutôt que de travailler avec le rayon de courbure, travailler en fait avec l'inverse du rayon de courbure, qui est tout autant un nombre que R est un nombre, qu'on appelle KP, qui est la courbure, donc qui est l'inverse de ce plan. Donc pour moi, la courbure dorénavant va être l'inverse du rayon de courbure. Et donc la chose importante maintenant, c'est que, ben, évidemment, mon objet il est à deux dimensions. Quand je prends un plan P normal, je trouve un rayon de courbure, mais quand je change le plan, quand je le fais pivoter autour de la normale, eh bien évidemment que le rayon de courbure, et donc la courbure, change. Et donc là, on tombe sur cette situation un peu embêtante où, pour caractériser la géométrie de la surface en un point, le point P, eh bien, brusquement, je me retrouve avec beaucoup d'informations, c'est-à-dire toutes les données de toutes ces courbures pour tous les plans normaux. Ça fait vraiment beaucoup d'informations. Et alors, du coup, pour être sûr de les comprendre, les mathématiciens ont essayé, justement, de voir si cette information, on ne pouvait pas l'organiser de façon mathématique simple. Et en fait, ils y sont arrivés, donc ça c'est les travaux de Meunier et de Gauss, qui ont montré qu'en fait, quand on fait tourner le plan normal autour de la normale, eh bien, en fait, la dépendance du rayon de courbure ou de la courbure était en fait beaucoup plus simple que ce qu'on croyait. Et au lieu d'être une collection infinie de nombres, ces nombres s'organisaient comme une quantité extrêmement simple, qu'on appelle, en termes un peu savants, la seconde forme fondamentale de la surface, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. En tout cas, que cette quantité oscillait entre deux quantités, un maximum et un minimum, et que en fait, les plans pour lesquels ce maximum et ce minimum étaient atteints étaient en fait perpendiculaires l'un avec l'autre. Et ça pour des raisons mathématiques tout à fait profondes. Autrement dit, pour bien comprendre la géométrie de la surface, il suffisait en un point donné de cette surface de connaître en fait ce maximum et ce minimum, et les deux plans pour lesquels ce maximum et ce minimum étaient atteints. Et alors, en fait, le théorème fondateur de la notion d'espace courbe est un théorème dû à Carl Friedrich Gauss, mathématicien, comme je l'ai dit, qui a vécu à la fin du, en, disons, entre la fin du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle, qui est ce superbe théorème qu'il a appelé lui-même le Theorema Egregium de Carl Friedrich Gauss, qui dit la chose suivante. Quand je prends le produit de ces deux nombres, qui sont la courbure maximum atteinte pour un plan et la courbure minimum atteinte pour un plan perpendiculaire, eh bien cette quantité, elle est, comme on dit, intrinsèque. Autrement dit, j'aurais pu la trouver, c'est le produit de ces deux nombres, j'aurais pu le trouver sans utiliser du tout les plans normaux, les rayons de courbure, etc. Mais en fait, elle est accessible à des mesures faites uniquement sur la surface. Autrement dit, par rapport à ma surface originelle, quand je suis parti de ma surface, vous avez vu que pour arriver à définir la courbure maximum ou la courbure minimum, j'étais contraint d'aller chercher des choses dans la direction normale, de tracer des cercles de courbure, etc. Gauss affirme que, en fait, en ce qui concerne le produit de ces deux nombres, le maximum et le minimum, eh bien, en fait, j'aurais pu le comprendre directement en vivant sur la surface. Et je montrerai comment plus tard. Donc, si vous voulez, c'était la première fois qu'on se rendait compte qu'il y avait quelque chose d'accessible, de compréhensible, en vivant uniquement sur la surface, en vivant à deux dimensions, sans aller chercher la forme de la surface dans un espace plus grand. Donc c'est ça l'idée fondamentale d'un espace courbe, c'est un espace dans lequel sa géométrie interne va être telle qu'elle va être compliquée par rapport à la géométrie euclidienne habituelle, parce qu'un certain nombre de quantités qu'on peut calculer localement, en se promenant dans cet espace, vont vous dire que les choses auxquelles on est habitué dans l'espace euclidien ne marchent pas. Donc c'est là qu'on est à la porte de la création de nouvelles géométries. En fait, pour Gauss, qui donc a établi ce théorème, ce qui est extraordinaire chez Gauss, sa devise était « paucas et matura », peu de choses, mais des choses mûres. Donc il a démontré ce théorème à une certaine date et il a publié sa démonstration 25 ans plus tard, parce qu'il n'était pas content de sa première démonstration, et donc il a attendu d'avoir une démonstration qui le satisfasse. En fait, entre-temps, ou pas tout à fait, en tout cas, l'article où ces choses sont publiées, donc cet article de Gauss, je ne sais pas si c'est tout à fait lisible, donc il s'appelle « Les discussions générales sur les courbes tracées sur les surfaces », donc il y a ce texte merveilleux de Gauss, dans lequel ce théorème est démontré. Et donc on est à l'aube de la naissance de nouvelles géométries, qui en fait ont été pressenties par Gauss, il ne les a pas vraiment définies lui-même. Elles ont été découvertes à la fois par un mathématicien vivant à Kazan, qui s'appelle Nicolas Blobachevski, et un jeune officier hongrois qui s'appelle Janos Bolyai, et qui tous les deux, de façon indépendante, ont découvert vraiment que la géométrie euclidienne n'était pas du tout la seule géométrie possible. Et en fait, Gauss, qui était lui-même destinataire de courriers aussi bien de Blobachevski et de Bolyai, spécialement de Bolyai, qui était le fils d'un vieil ami de Gauss, Wolfgang Bolyai, mathématicien professionnel, lui. Bolyai étant un jeune officier qui s'ennuyait dans son école d'officier, donc qui faisait des mathématiques, comme Napoléon, d'ailleurs, s'ennuyant à son école d'officier. Et donc, j'aurais pas dû dire Napoléon, j'aurais dû dire Bonaparte, pardon. Ces nouvelles géométries, donc, chez Lobachevski, ont été publiées dans un livre qui s'appelle « Recherche géométrique sur la théorie des droites parallèles », puisqu'évidemment, ces nouvelles géométries vont violer l'axiome des parallèles. Ou alors, dans le cas de Bolyai, c'est paru dans un appendice d'un article de son père, qui est donc un article dans lequel il explique qu'il a montré l'axiome numéro 11 d'Euclide est en fait faux, et donc il montre comment ces nouvelles géométries sont nées. Donc ce que je vous propose de faire maintenant, si vous voulez, c'est de présenter ces géométries modèles rapidement. Vous verrez qu'elles sont extrêmement concrètes, en fait, et donc on peut en fait les saisir tout à fait bien. Donc peut-être pour bien comprendre en quoi elles sont originales, il est utile de revenir à la géométrie euclidienne. Et la géométrie euclidienne, donc je vais la présenter dans le cadre du plan, j'aurais pu la présenter dans le cadre d'un espace à plus de dimensions, mais en tout cas dans le cadre du plan, la figure fondamentale de la géométrie euclidienne, comme on l'a tous appris à l'école, c'est la figure du triangle. Donc je prends trois points A et B, C, que je rejoins par des segments de droite, qui sont les plus courts chemins dans le plan. Et évidemment, ça me dessine aussi un triangle, autrement dit trois angles, que j'ai appelé alpha, bêta, gamma, en fonction des noms que j'ai donnés au sommet, grand A, grand B, grand C. Et alors, un des théorèmes fondamentaux de la théorie de la géométrie euclidienne, mais qui est directement lié à l'axiome des parallèles, évidemment, le fait que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés, les mathématiciens préfèrent utiliser les radians, donc en fait, pi radians. et que tous les calculs de la géométrie du triangle se font avec une seule formule de trigonométrie bien connue, qui est que le carré de la longueur d'un côté est égal à la somme des carrés des côtés adjacents moins deux fois le double produit de ces côtés par le cosinus de l'angle opposé au côté qu'on mesure, qui évidemment redonne le théorème de Pythagore quand l'angle vaut un angle droit, puisque le cosinus vaut à ce moment-là 0. Donc voilà ce qu'est la géométrie euclidienne et ce qui permet de la comprendre, de la développer dans toute généralité. Alors la géométrie, en fait, paradoxalement, on connaissait depuis très longtemps une géométrie non euclidienne, mais personne n'avait imaginé que c'était de la penser comme une géométrie. C'est ça qui est la chose extraordinaire. C'était un outil fondamental pour les astronomes qui regardaient la voûte céleste et qui voulaient comprendre la voûte céleste, mesurer les distances entre les astres, et qui avaient développé des outils extrêmement sophistiqués pour comprendre la position des astres, l'astre, l'analyser dans la voûte céleste. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la géométrie sphérique, mais la chose étonnante, qui est bien entendu, elle était connue bien avant Lobachevsky, Gauss ou Boyaï, mais elle n'était pas conçue comme une géométrie. Alors comment doit-on penser la sphère, j'ai pris ici une sphère de rayon 1, pour la concevoir comme une géométrie? Eh bien évidemment, je dois me donner, si je me donne trois points sur la sphère ABC, je dois me donner l'analogue des côtés du triangle, je dois me donner l'analogue des plus courts chemins. Si vous avez fait un tout petit peu de navigation, vous savez que le plus court chemin sur la sphère, autrement dit sur la Terre, c'est effectivement les grands cercles. Autrement dit, ce qui va remplacer les segments de droite de la géométrie euclidienne vont être des arcs de grands cercles de la sphère. Donc j'ai pris mes trois points, j'ai pris mes arcs de grands cercles, et évidemment, de la même façon que dans le triangle, dans le plan euclidien, j'avais effectivement trois angles, je peux m'intéresser à des triangles sphériques, qui sont donc des triangles dont les côtés sont des arcs de cercle, des arcs de grands cercles, et avec des angles alpha, bêta, gamma. Et alors la chose extrêmement importante, pas complètement évidente, mais pas très difficile à démontrer, c'est que si je fais la somme des trois angles alpha, bêta, gamma, eh bien je trouve de nouveau pi radian plus quelque chose qui est exactement l'aire du triangle ABC. Autrement dit, voilà une géométrie dans laquelle la somme des angles d'un triangle ne fait pas 180 degrés ou pi radian, mais fait plus. Et en fait, on sait le calculer exactement. Petit exercice pour vous occuper jusqu'à la fin de la conférence, si vous vous ennuyez, d'établir cette formule. Et en fait, avait été développé historiquement, avec un grand succès pour l'astronomie, un calcul qui permettait, comme on sait résoudre les triangles dans le plan, en connaissant trois éléments bien choisis, on trouve tous les autres éléments d'un triangle. Dans la sphère, c'est la même chose. Quand on connaît trois éléments, on sait connaître tous les autres éléments. Et le calcul qui permet de faire ça, c'est cet outil, une trigonométrie, qu'on appelle la trigonométrie sphérique. Alors, en fait, dans la sphère, qu'est-ce qui fait que l'axiome des parallèles est violé? Ben, disons, c'est vraiment très, très bête. C'est tout simplement que si je prends la sphère, une bonne raison pour violer l'axiome des parallèles, c'est que si je prends toutes les droites de cette géométrie, autrement dit mes grands cercles, qui partent d'un point P, ils ont le mauvais goût de tous se recouper au pôle, si ça c'est le pôle nord, ils se recoupent tous au pôle sud. Donc voilà des droites. Donc je n'arrive jamais à faire des droites parallèles, puisque quand je pars d'un point et que je prends une droite, droite voulant dire un grand cercle, eh bien, elle revient en ce point-là où elle recoupe au pôle opposé. Donc il n'y a jamais moyen de dessiner des parallèles. Donc évidemment, quand je veux regarder l'axiome d'Euclide qui me dit prenons une droite, donc un grand cercle, prenons un point extérieur, l'axiome d'Euclide me dit il existe une et une seule parallèle, sur la sphère il existe zéro parallèle. Donc l'axiome est indiscutablement violé. Une autre chose qui est quand même très intéressante dans cette géométrie, que je voudrais vous faire sentir, c'est la propriété suivante, qui est tout à fait importante. Imaginons que moi je me suis au point P, et je dirige mon regard un petit peu dans toutes les directions à partir de ce point-là. Donc, diriger mon regard, ça veut dire évidemment que j'ai un trajet lumineux qui va suivre un plus court chemin, donc un grand cercle. Donc, j'imagine que l'espace dans lequel je vis, c'est un espace qui est la surface d'une sphère. Eh bien, évidemment, ce chemin lumineux, il va suivre, si je pars dans la direction bleue, il va suivre le grand cercle bleu. Si je pars dans la direction violette, le grand cercle violet, etc. Alors, vous voyez bien que j'ai la propriété que moi, si je m'intéresse à ce qui se passe en ce point pôle sud, le point Q, eh bien le point Q, je le vois dans toutes les directions. Donc ce qui était pour moi un point en géométrie euclidienne, quand je pointe quelque chose, quand je regarde dans une direction, il n'y a qu'une façon d'attraper un point dans l'espace euclidien. Ici, sur la sphère, on a le phénomène extraordinaire que quelle que soit la direction dans laquelle je regarde à partir du point P, je vois toujours le point Q. Donc d'une certaine façon, pour moi, le point P, ce n'est pas un point. Si je veux le représenter du point de vue de ma vision, c'est vraiment un cercle. Puisque quelle que soit la direction dans laquelle je regarde, je vois le point. Donc vous voyez, ça c'est très très dérangeant. Et en fait, c'est tout à fait analogue à des choses qu'on trouve dans le manifeste du cubisme de Gleize, qui est un peu une revendication de la nécessité de regarder les choses dans plusieurs directions à la fois. Donc ça, c'est une peinture de la Tour Eiffel de Delaunay, qui est une des représentations cubistes de la Tour Eiffel, dans lesquelles on voit effectivement trois côtés. Alors c'est facile de vous convaincre que sur une géométrie sphérique, on voit effectivement plusieurs côtés à la fois, plus, beaucoup plus que dans la géométrie euclidienne. Donc ça a été exploité, disons, par les peintres cubistes. Alors j'en viens donc à la géométrie qui était vraiment la création ou l'invention, je ne sais pas ce que je dois dire, sinon sauf à rentrer dans un débat philosophique dans lequel je ne veux pas rentrer maintenant, de Lobachevsky et de Boyaï, qui était donc celle de la géométrie hyperbolique. Alors on a mis pas mal de temps pour cette troisième géométrie, donc inventée ou découverte par Boyaï et Lobachevsky. Et alors je vous en donne un modèle qui n'est pas celui qui était utilisé par Boyaï et Lobachevsky, qui est celui qu'on appelle souvent le modèle de Beltrami, qui consiste à penser que l'espace, c'est l'intérieur d'un disque. Donc vous voyez, mon dessin ressemble au dessin de la sphère, mais je le pense en termes radicalement différents. Pour moi, l'espace, c'est l'intérieur de ce disque que je vois comme un disque plat de rayon 1. Et donc maintenant, il faut que je vous dise ce que sont mes plus courts chemins, ce que sont l'analogue des droites de la géométrie euclidienne. Eh bien, l'analogue des droites, ça va être des cercles euclidiens qui coupent le cercle bord du disque à angle droit, donc ce qu'on appelle en géométrie donc les cercles orthogonaux au cercle de rayon 1. Alors, vous voyez, mon espace, c'est l'intérieur du disque, mais je ne vais pas jusqu'au bord. Donc voilà, je vous ai tracé deux plus courts chemins, deux droites de cette géométrie hyperbolique. Alors évidemment, dans cette géométrie hyperbolique, je vais faire la même chose que dans les autres géométries. Je vais m'intéresser au triangle élémentaire et regarder ce qui se produit. Et alors, attention, la façon de mesurer les distances ne va pas être tout à fait la façon habituelle. Donc, comme d'habitude, dans mon espace, qui est donc l'intérieur de ce disque, je prends trois points ABC et je les relie par des plus courts chemins, autrement dit par des cercles orthogonaux au cercle de rayon 1. Et donc, je trouve mes trois côtés. Et particulièrement, j'ai mes trois côtés, j'ai évidemment mes trois angles. Et il se trouve que la mesure des angles continue à être la mesure des angles ordinaires. Alors qu'attention, dans mon espace à l'intérieur du disque, la façon de mesurer les distances n'est pas comme la mesure habituelle euclidienne, comme je le montrerai dans une minute. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est toujours ma géométrie des triangles. Et donc, quand je fais la somme de ces trois angles, je trouve pi, c'est rassurant, mais moins rassurant, je trouve que je dois retrancher un terme qui est en fait une aire, dans un sens bien compris, du triangle ABC. Et avec le fait extraordinaire que si vous vous amusez à éloigner le sommet A vers le bord, à éloigner le sommet B vers le bord, à éloigner le sommet C vers le bord, qui veut dire en fait que je m'en vais à l'infini dans cette géométrie-là, eh bien vous voyez que mes deux cercles qui vont me servir à définir les côtés du triangle ABC, ils vont être de plus en plus tangents l'un à l'autre. Parce que vous voyez bien, les deux points où ils vont couper le bord, ici, vont être de plus en plus proches. Donc en fait, ces deux cercles vont faire un angle de plus en plus petit. Donc vous avez cette situation en particulier dans la géométrie hyperbolique, que vous avez des triangles dont la somme des angles vaut pratiquement zéro, en tout cas aussi petite qu'on veut. Et en particulier, ça vous dit aussi qu'il y a que dès que vous voulez dessiner un triangle dans géométrie hyperbolique, puisque ça c'est quand même une somme de nombres positifs, c'est une somme d'angles, vous ne trouvez jamais des aires, au sens où je l'ai dit, de ces triangles qui sont plus grandes que pi. Donc c'est une géométrie qui a la particularité que, aussi loin que je vais, quand je trace un triangle, je ne lui trouve jamais une aire plus grande que pi. C'est quand même une géométrie surprenante. Et alors, il y a aussi un calcul associé, qui est une trigonométrie hyperbolique. Pour vous faire sentir les problèmes de mesure de métrique, je vous donne un dessin qui a été repris d'un livre de Coxeter. Et donc, il faut vous persuadiez que les éléments en blanc et noir sont tous isométriques. Autrement dit, c'est la même chose que le cas d'égalité des triangles de la géométrie euclidienne, où vous prenez un triangle et vous pouvez le superposer à un autre métriquement. En fait, les triangles blancs et les triangles noirs sont superposables métriquement, c'est-à-dire la façon dont la notion de distance est définie dans cette géométrie fait que ce triangle blanc a la même dimension que ce triangle blanc-là, mais par le fait que je me suis approché du bord, eh bien, par rapport à ma notion habituelle de distance, les distances deviennent de plus en plus grandes, en fait. Autrement dit, quand je me rapproche infiniment du bord, j'ai en fait, c'est pour ça que je me rapproche de l'infini, donc la même image isométrique de ce triangle va devenir infiniment petite dans la géométrie euclidienne habituelle. Alors, exploité par Escher, ça devient ce dessin-là, pas inintéressant. Alors, en fait, la grande généralisation qui était vraiment le pas extraordinaire a été la généralisation qui a été faite par Bernard Riemann, un des mathématiciens les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité. Extraordinaire pour tout un tas de choses, parce qu'il a d'abord touché à peu près à tous les sujets des mathématiques, pas seulement au sujet des mathématiques, mais aussi à la mécanique ou à la physique, et que par ailleurs, sa vie a été très brève, il est mort, je crois, à 41 ans, et après une très longue maladie, une tuberculose qui l'a affaibli pendant au moins 10 ans de sa vie. Donc vous imaginez ce que ça veut dire que la vitesse à laquelle il a travaillé. Et alors, le texte extraordinaire que Riemann a écrit, qui a changé la géométrie, qui est donc ce qui a fondé ce qu'on appelle aujourd'hui la géométrie riemannienne, qui est donc la géométrie des espaces courbes, dans un sens le plus général, eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que ça, c'était même pas un travail de réflexion très prolongé, c'était en fait sa leçon d'habilitation. Le système allemand, comme le système français dans le passé, a un système où un jeune chercheur doit présenter ses travaux, mais aussi proposer 3 sujets, pas dans sa spécialité, qu'un jury le choisit, son jury de soutenance, choisit parmi ces 3 sujets, 15 jours avant la soutenance, un des 3 sujets. Et donc, Riemann, en 1854, quand il a défendu son habilitation, Gauss était dans le jury, c'était peu avant le décès de Gauss d'ailleurs, Gauss a choisi dans la liste des 3 sujets proposés par Riemann, un sujet qui s'appelle donc « Sur les hypothèses sur lesquelles la géométrie est fondée », texte extraordinaire qui n'a pas été publié d'ailleurs du vivant de Riemann, qui a été publié seulement en 1869. Et donc il a créé une nouvelle géométrie. Quelle est l'idée de cette géométrie? C'est les seules des formules mathématiques que j'écrirai, si vous pouvez me pardonner ça. Donc c'était l'idée suivante, c'était de dire, voilà, je vais m'intéresser à une géométrie dans laquelle je vais prendre des courbes, comme ma courbe bleue. Donc je vais d'un point P, qui est le point sur la courbe à l'instant 0, je vais au point Q, qui est le point sur la courbe à l'instant 1, et puis évidemment, en cours de temps, j'ai un point gamma de t, et je peux regarder la vitesse de mon paramétrage là, en ce point-là, que j'ai écrit d gamma sur dt. Et donc l'idée de Gauss, c'est de prendre une notion de longueur des courbes qui en fait va dépendre du point où on calcule. La chose extrêmement importante, c'est que la valeur par laquelle je calcule la longueur du vecteur vitesse, donc je calcule cette longueur ici, eh bien dépend du point où je calcule. Autrement dit, on a une notion de longueur qui varie avec le point. Et donc ça, c'est vraiment l'idée complètement novatrice. Autrement dit, quand j'écris l'élément de longueur, donc ça, c'est par rapport à des éléments infinitésimaux le long de la courbe, eh bien, les coefficients qui me permettent de mesurer cette longueur dépendent du point où je le calcule. Donc on a une géométrie, disons, qui est avec une géométrie des longueurs variable. Alors évidemment, ce qu'il a dû faire, ça a été de retrouver tout ce qu'on avait utilisé jusqu'à maintenant. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je prenais des points, je cherchais des plus courts chemins. Et donc, il a trouvé l'équation des plus courts chemins, qu'on appelle l'équation des géodésiques. Équation un peu compliquée, qui consiste à trouver les courbes d'accélération nulle dans cet espace. Et en fait, les coefficients qui permettent de définir ces accélérations sont complètement déterminés par les coefficients de la métrique. La chose la plus importante, je ne veux pas vous déranger avec ces formules, c'est que là, ça va nous permettre d'expliquer en particulier, ce que je disais tout à l'heure à partir de... Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de la surface S et que le théorème à Egregium vous disait que la courbure, le produit de K max par K min, ça pouvait se calculer en vivant complètement sur la surface. Et bien voilà comment on fait. Et donc ça, avec la géométrie de Gauss, c'est complètement limpide. Je pars de mon point P, je vais dans toutes les directions à la distance petit r. Donc vous voyez, j'ai tracé tous mes chemins de longueur r à partir de P. Ça me fabrique quelque chose qui, en géométrie euclidienne, serait un cercle. Donc je trace cette courbe rouge, qui est donc tous les points qui sont à distance petit r du point P. Et à ce moment-là, puisque j'ai ma géométrie euclidienne et géométrie riemannienne, cette géométrie de Riemann, je peux calculer la longueur de ce cercle. Et là, la bonne ou la mauvaise surprise, comme vous voulez, c'est que je trouve, la mesure que je devrais trouver, c'est 2 pi fois le rayon, si j'étais en géométrie euclidienne. Donc j'ai un terme correctif qui est 1/6 de la courbure en ce point-là multipliée par le cube de la distance. Donc vous voyez que brusquement, en mesurant la longueur des points qui sont à la distance petit r du point P, je suis capable de détecter la courbure qui est centrée en ce point-là. Vous voyez que le coefficient Kp qui apparaît ici, c'est justement la courbure au point P. Et ça, c'est accessible à des êtres qui vivent uniquement sur la surface. La seule chose que j'ai fait, j'étais en mon point P, je suis allé dans toutes les directions à la distance petit r, j'ai trouvé toute une courbe, j'ai mesuré la longueur de cette courbe, Et le terme correctif par rapport à la mesure euclidienne me donne la courbure. Donc vous voyez, c'est ça la chose fondamentale, complètement comprise par Gauss. Et en fait, la chose que Gauss a faite, c'est qu'il a donc introduit l'élément de mesure de la courbure. Alors cet élément est un élément mathématique très compliqué, qu'on appelle le tenseur de Riemann-Christoffel. Je ne vais pas vous assommer avec lui. Et en particulier, la fonction de ce tenseur de Riemann-Christoffel, c'est qu'il mesure la déviation à la platitude. Autrement dit, quand je suis dans un espace plat, autrement dit un espace euclidien, le tenseur de Riemann-Christoffel, cet invariant introduit par Riemann, vaut 0. Et alors, comme toujours, quand on a une généralisation, la chose importante, c'est que cette généralisation de Riemann englobe la géométrie euclidienne, je vous ai dit comment. Parce que là, à ce moment-là, le tenseur de Riemann-Christoffel valait 0. La géométrie sphérique, à ce moment-là, le tenseur de Riemann-Christoffel est constant d'une certaine façon et vaut 1. Et la géométrie hyperbolique, le tenseur de Riemann-Christoffel est constant et vaut moins 1. Autrement dit, toutes les géométries précédemment introduites sont des cas particuliers de la géométrie de Riemann. Toujours pour avoir une petite illustration et peut-être pour vous faire souffler, une autre illustration donc, de Vasarely qui est des représentations de plus courts chemins dans les espaces dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont, disons, plutôt des courbures négatives, plutôt des courbures positives. Alors, comme je vous ai dit, tout ça est vraiment important parce que ça donne aux mathématiciens brusquement de nouveaux exemples, de nouveaux modèles. Et alors, évidemment, l'exemple le plus célèbre où on parle d'espace courbe, comme le rappelait Julien Gracq, c'est justement dans le cadre de la théorie de la relativité. Alors, je ne veux pas détruire la conférence d'un de mes collègues, plus professeur à l'Institut des études scientifiques, Thibaud Damour. Donc, je vais être très discret sur la relativité générale, mais quand même, je dois bien en dire quelque chose. Donc, effectivement, la relativité générale est ce saut conceptuel extraordinaire qui consiste à comprendre que la théorie, pardon, de Newton n'est pas suffisante pour comprendre la gravitation, et qu'en fait, on peut rendre compte des effets gravitationnels, donc d'une façon complètement radicalement nouvelle, en disant en fait que c'est purement des effets géométriques. Qu'en fait, l'espace dans lequel on vit, par la présence des masses, acquiert une courbure, parce qu'il a une géométrie plus compliquée que ce qu'on croit d'habitude. Et donc, en fait, les plus courts chemins sont en fait des mouvements en chute libre. Et puisque cet espace est courbe, les mouvements en chute libre ne vont pas être du tout les mouvements auxquels on est habitué. Ça va être plutôt quelque chose qui va ressembler aux trajectoires sur la sphère. Et donc, en particulier, on a ce phénomène extraordinaire que la lumière dévie. Pardon, que les étoiles massives dévient la lumière, d'où le phénomène extrêmement important, qui était un des tests de la relativité générale, que quand on a une éclipse de soleil, quand on repère les rayons lumineux venant au bord du soleil, eh bien, si on les a repérés d'où ils venaient par rapport à la position habituelle du ciel, à cause de leur passage extrêmement près du bord du soleil, le soleil étant une étoile massive, eh bien, les rayons vont être déviés. Un autre effet qui, lui, est plus récent et qui est lié à la présence d'étoiles extrêmement massives est ce qu'on appelle les phénomènes de lentilles gravitationnelles. Donc, vous en avez quelques-uns ici. J'espère qu'on les voit. Oui, on ne les voit pas trop mal. Donc, vous voyez ce qui se passe. Bon, bien sûr, il y a des choses qui sont simplement des galaxies, qui ont des formes de spirales, de choses de ce genre-là. Mais les choses qui m'intéressent, moi, ce n'est pas ça. Ça, c'est une photo qui est prise à partir du télescope Hubble. C'est des choses qui sont des traînées de ce genre. Vous voyez, qui sont des arcs. Mais le phénomène qui est là, c'est un phénomène complètement analogue à ce phénomène que je vous ai décrit tout à l'heure. Quand je regardais le pôle nord depuis le pôle sud, pardon, depuis le pôle nord, je vous ai dit qu'en fait, quelle que soit la direction dans laquelle je regardais, je voyais partout le pôle sud. Et qu'en fait, donc pour moi, l'image du pôle sud, ce n'est pas un point, mais c'est un cercle. Eh bien là, c'est la même chose. J'ai une étoile qui est loin, dont les rayons passent très près d'étoiles massives. Et ces étoiles sont tellement massives qu'elles dévient tellement les rayons lumineux. On a un phénomène complètement analogue à ce phénomène que j'ai indiqué sur la sphère. Autrement dit, que brusquement, au lieu d'avoir une image de l'étoile, j'ai en fait tout un trait qui représente tous les rayons venant, parce que ces rayons ont été déviés, et finalement, ils reviennent vers moi parce qu'ils sont déviés par des étoiles qui se trouvent entre l'étoile qui émet la lumière et moi. Donc, ce phénomène est évidemment extrêmement important. Alors, évidemment, parmi les modèles tout à fait importants, et une chose peut-être un peu surprenante, mais comme vous avez compris que j'ai un petit penchant pour la peinture, un des objets importants chez les mathématiciens, qui a été repéré très très vite comme un objet mathématique important, est l'espace des couleurs. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, au moment où cette théorie d'espace des couleurs a été développée, en fait, c'était une chose qui était vraiment originale. Aujourd'hui, elle est devenue banale avec l'utilisation des téléviseurs. On sait bien que pour faire toutes les couleurs dans un téléviseur, eh bien, on est amené tout simplement à superposer trois couleurs élémentaires. Et du coup, ça donne l'idée que finalement, quand on veut regarder ce que c'est que intrinsèquement une couleur, comment, si on veut discuter de couleurs, finalement, j'aurais besoin seulement de trois paramètres. Alors en fait, si on réfléchit un tout petit peu plus, la couleur, c'est aussi une sorte d'intensité. Et donc, quand on veut vraiment s'intéresser à la nature de la couleur, ce qui est vraiment pour le peintre la chose importante, ce n'est pas seulement l'intensité, c'est vraiment la nature de la couleur, on peut normaliser cette intensité. Donc vous voyez que finalement, les trois paramètres qui étaient les coefficients que je devais mettre devant mes trois couleurs élémentaires que je superpose pour fabriquer ma couleur finale, eh bien, se ramènent en fait à un espace à deux dimensions. Alors pour vous montrer que ces idées remontent à très longtemps, je voudrais faire un peu de publicité pour un scientifique absolument extraordinaire, je crois peut-être le dernier savant universel que le monde ait connu, qui s'appelle Helmholtz, qui écrivait, et donc qui a commencé sa vie comme un médecin, et on lui doit énormément de l'instrumentation de l'ophtalmologie, qui finalement, quand il avait, je crois, un peu plus de 50 ans, a commencé à faire un peu de physique, parce qu'il s'ennuyait, il n'avait jamais eu envie d'être médecin en fait. Et puis, je crois qu'Humeur, quand il a passé 60 ans, l'a convaincu qu'il fallait quand même s'intéresser un peu aux mathématiques. Et donc, il s'est intéressé un peu aux mathématiques. Et donc, en particulier, il s'est intéressé à l'espace des couleurs, donc Nämliches das System der Farben. Donc, il s'intéresse à l'espace des couleurs. Et alors, cet espace des couleurs a été maîtrisé par un certain nombre de gens. Donc, on y a défini dessus des notions de distance. Et donc, là, par exemple, voici l'analogue des fameux petits cercles que j'avais dessinés tout à l'heure. Hein, qui étaient ces cercles à égale distance d'un point donné. Donc vous mettez dans la couleur qui est juste ce point-là, dans mon espace à deux dimensions. Et voilà les couleurs qui sont équidistantes de cette couleur-là par rapport à une métrique qui a été choisie, qui s'appelle la métrique de Stiles. Ce qui est très intéressant, c'est que parmi les gens qui ont proposé des métriques sur l'espace des couleurs, donc de faire de l'espace des couleurs un espace courbe, il y a des gens aussi célèbres que Schrödinger. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. De voir que, je veux dire, maîtriser, enfin donner une structure courbe à l'espace des couleurs a intéressé les plus grands physiciens. Alors, la chose peut-être la plus amusante, c'est que la façon dont je suis tombé sur cette question est par l'intermédiaire d'un ami mathématicien, dont l'épouse est ingénieure chez Renault, et qui un jour arrive chez elle. C'est une femme dont le métier est de définir l'habitacle intérieur des voitures, donc de les habiller en particulier. Et qui lui dit, j'ai besoin que tu me calcules des géodésiques dans l'espace des couleurs. Donc mon collègue, qui est aussi géomètre, était un petit peu stupéfait de voir son épouse brusquement s'intéresser à la géométrie des espaces courbes. Et en fait, le problème qu'elle avait est un problème finalement assez banal, c'est qu'elle avait, pour des raisons liées aux matériaux, deux couleurs bien définies, et elle voulait interpoler entre ces couleurs. Et une très bonne façon d'interpoler entre couleurs, si vous avez une notion de métrique, vous prenez le plus court chemin entre les deux couleurs que vous avez, et ensuite vous espacez les couleurs intermédiaires, et ça vous donne donc une façon de trouver des couleurs intermédiaires entre deux couleurs données. Un autre modèle qui a été extrêmement utile en physique, c'est dans la physique des défauts. Donc c'est ce que les physiciens aiment bien appeler les cristaux frustrés. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on peut s'intéresser à des cristaux. Voilà un empilement disons, de représentations atomiques qui sont un cristal parfaitement rangé. Mais tous les cristaux sont pas comme ça. Ils peuvent avoir des défauts de plusieurs sortes. Donc, il peut donc y avoir ce qu'on appelle des frustrations. Et alors, voilà une frustration. Je vais y arriver. Voilà une frustration où brusquement. Donc, on avait un rangement des atomes qui était extrêmement régulier, mais on peut aussi, vous voyez, il y a une flèche qui manque un tout petit peu, on peut brusquement, en fait, enlever il y a un atome qui devrait être à sa place, qui n'y est pas, et brusquement, les autres atomes viennent fermer l'espace. Donc, vous voyez, ce qui se rangeait très très bien, quand je regardais à partir d'un atome ses voisins, eh bien, brusquement, il y a un voisin qui manque. Vous voyez que les voisins, normalement, j'ai six voisins, et quand vous regardez le centre de ce point-là, enfin cette zone ici, en fait, il y a brusquement une zone où il y a moins de voisins qu'il devrait y avoir, donc on a enlevé une partie, et brusquement, vous trouvez un espace qui donne l'impression d'avoir une courbure positive, il ressemble un petit peu à la géométrie de la sphère. Et même chose dans le genre des frustrations, on peut avoir des frustrations au contraire, où il y a un défaut supplémentaire qui vient d'arriver, et là, au contraire, par rapport à la disposition normale des atomes, on peut avoir. En fait, donc ça, c'est des images qui ont été prises quand on fait de la diffraction, on peut brusquement avoir en fait plus de voisins qu'on ne devrait avoir. Et brusquement, l'impression que ça donne, c'est vraiment l'impression d'avoir, disons, un espace à courbure négative. Et alors là, la chose que je voulais vous faire comparer, ce qui est quand même tout à fait étonnante, c'est la similitude avec Vasarely et donc la géométrie que je vous montrais tout à l'heure, donc entre ces deux géométries de physique, d'atomes frustrés, et ces dessins proposés par Vasarely. Donc, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas le dire beaucoup plus, c'est donc cette appropriation par les peintres des modèles de ce genre-là. Enfin, je voudrais terminer par les développements les plus récents. Et en fait, une des choses qui a vraiment dominé le XXe siècle dans les mathématiques, toutes les branches des mathématiques, ça a été en fait le passage du local au global. Vous avez vu que tous les dessins que j'ai faits jusqu'à maintenant, je m'intéressais à une zone déterminée d'une surface. Tout à l'heure, je me suis intéressé à un triangle qui était dans une partie d'une surface. Et moi, ce qui va m'intéresser brusquement, ça va être le passage du local au global. Donc, je m'intéressais à une surface dans sa globalité. Alors, j'ai deux surfaces avec moi, une qui n'est pas très originale en ce moment, qui est un ballon de football, et puis une autre surface que je vais vous fabriquer devant vous, qui est un tore, que je démonte avant de le remonter. Donc, pour moi, le tore, c'est très important que je le pense. Vous voyez qu'un tore, je peux partir d'une zone dans le plan, comme ça, et puis je peux paver le plan avec ces rectangles. Mais je peux maintenant identifier ce côté-là, ce que le Velcro me permet à peu près. Et ensuite, après, je peux identifier ce bord-là avec ce bord-là, ce que le Velcro devrait me permettre encore. Donc voilà, donc j'ai fabriqué une chambre à air, ce n'est pas très extraordinaire, c'est un tore. Vous voyez qu'en tout cas, ce qui distingue le tore de la sphère, c'est qu'il y a un trou au milieu. Alors qu'ici, je n'ai pas de trou. Alors l'objet qui va m'intéresser pour le relier aux espaces courbes, c'est ce qu'on appelle l'invariant d'Euler Poincaré des surfaces. Alors ça, c'est une chose qui a été pressentie par Euler, vraiment comprise dans le cadre de la topologie algébrique de Poincaré, qui est la chose suivante, c'est que quand on prend une surface, quelle qu'elle soit, le ballon de football, la sphère donc, ou le tore, eh bien, quelle que soit la surface, toutes les fois qu'on dessine des polygones, quels qu'ils soient, donc je dessine des polygones sur la surface, et je m'amuse à faire le calcul suivant. Donc j'ai pris une surface, S, je calcule le nombre de sommets qu'il y a sur cette surface, sur cette polygonalisation de la surface, je retranche le nombre d'arêtes et je rajoute le nombre de polygones, le nombre de faces, j'ai envie de dire. Eh bien, ce nombre ne dépend pas des polygones que j'ai tracés sur la surface. Ça dépend que de la topologie de la surface. Donc, en particulier, quand je prends la sphère, le ballon de football, eh bien, je trouve toujours 2. Quand je prends le tore, je trouve toujours 0. Alors, en fait, une des conséquences de ça, tout à fait amusante, c'est que, par exemple, ceci explique pourquoi dans les ballons de football, quand vous les regardez de loin, vous avez l'impression qu'ils n'ont que des hexagones. C'est des petits morceaux, là, de. Pas du cuir, c'est du sky, qui sont cousus, mais il n'y a pas que des hexagones. Parce que si la sphère était recouverte que par des hexagones, quand vous faites ce calcul, vous trouvez toujours 0. Et ça, c'est impossible. Donc ça veut dire que dans le ballon de football, il y a sûrement autre chose que des hexagones. Alors quand vous regardez bien ce ballon, si vous voulez le regarder, je crois qu'on m'a dit qu'il fallait, j'avais pas le droit de sortir de mon. Voilà. Donc il y a en fait un certain nombre de pentagones et un certain nombre d'hexagones. Je souhaite récupérer le ballon après pour mes petits-enfants. Merci. Et alors, l'autre chose que je voudrais vous montrer, c'est que voilà par contre sur la sphère, je vous ai dit que si je n'avais que des hexagones, je pouvais le faire. Voilà donc sur le tore maintenant, je vous ai dit que le tore, ça s'obtenait à partir d'un rectangle dont j'identifiais, peut-être vaut mieux que je le mette comme ça, un rectangle ou un parallélogramme dont j'identifie deux côtés. Vous avez vu comment je l'ai fabriqué? Donc imaginez que vous prenez ce côté-là. Vous l'identifiez à ce côté-là. C'est pour ça que j'ai mis un aux quatre coins, parce que ce n'est pas quatre points différents sur le tore, c'est le même point. Parce que je les recolle et je les recolle. Et de la même façon, une fois que j'ai fabriqué mon cylindre, en recollant ceci avec ceci, j'ai un cercle ici, j'ai un cercle là, et j'identifie ces deux cercles. Eh bien, vous voyez que là, j'ai un pavage du tore, uniquement par des hexagones. Eh bien, c'est possible à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas interdit. Et la chose extraordinaire, c'est par exemple, ça vous montre que si vous vous intéressez au problème de la cartographie, vous savez que dans le plan, avec quatre couleurs, on colorie toutes les cartes, et bien sur le tore, il faut au moins sept couleurs pour colorier les cartes, et en fait, sept suffisent. Et donc voilà un pavage du tore qui exige de vous que vous utilisiez sept couleurs différentes si vous ne voulez pas que deux éléments aient des couleurs qui soient les mêmes. Vous voulez avoir des pas de voisinage. Alors quel est le lien avec la courbure? Et ça m'amène à ma conclusion. Bien, le lien avec la courbure, c'est la chose suivante. Je vais m'intéresser à des surfaces dans lesquelles je ne vais pas dessiner n'importe quel polygone, je vais m'intéresser à des triangles. Donc c'est ce qu'on appelle trianguler la surface. Donc je vais dessiner sur ma surface rien que des triangles. Alors vous vous souvenez que je vous avais dit tout à l'heure que quand je faisais la somme des angles d'un triangle sur les surfaces, je trouvais pi, toujours, et un terme correctif. Vous vous souvenez que sur la sphère, le terme correctif, c'était plus la surface. Vous vous souvenez que sur l'espace hyperbolique, c'était moins une sorte de surface. Alors en fait, si vous vous souvenez ce que j'ai laissé entendre, à savoir que la sphère est un espace à courbure plus 1 et que l'espace hyperbolique est un espace à courbure moins 1, si vous faites rentrer le signe dedans, comme on dit, eh bien brusquement, en fait, le terme correctif, c'est juste la quantité de courbure qui est contenue dans le triangle. Autrement dit, la formule exacte est en fait cette formule qui dit que la somme des angles d'un triangle sur un espace courbe est toujours donnée à deux dimensions, une surface, est toujours donnée par pi, plus l'intégrale de la courbure. Alors l'idée que ça donne, c'est de dire, je vais faire ça pour chaque triangle, et puis je vais ajouter tout. Et vous voyez bien, quand je fais cette somme, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver, quand je vais faire la somme de tous ces... Je vais faire la somme sur tous les triangles, j'aurai évidemment, autour de tous les sommets, autour de chaque sommet, pardon, j'aurai pris tous les angles possibles. Donc j'aurai finalement, en faisant cette somme, 2π fois le nombre de sommets. Et puis, combien j'aurai de fois compté le nombre pi? J'aurai autant de fois écrit pi dans ce membre-là que j'aurai de triangle. Donc à droite, j'aurai pi multiplié par le nombre de triangles. Ça sera plus commode que je le fasse passer de l'autre côté, donc en changeant son signe. Et puis finalement, qu'est-ce que j'aurai là? Là, j'avais toute la courbure qui était contenue dans ce triangle, mais quand je fais ça pour ce triangle, celui-là, 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 etc., sur tous les triangles qui recouvrent la surface, finalement, je trouve la quantité totale de courbure contenue sur la surface. Donc on est arrivé à ce résultat extraordinaire que finalement je suis capable de lier la géométrie, quelque chose de fondamental, la topologie, quelque chose de fondamentalement global, à la géométrie. Et donc voilà la formule finale. C'est la chose suivante. Comme j'ai pris des triangles, il y a un lien entre le nombre des arêtes et le nombre des triangles. C'est facile à voir que le nombre d'arêtes est forcément 3,5 du nombre de triangles. Pourquoi? Parce que chaque triangle a 3 arêtes. C'est un triangle, c'est aussi un tricoté, un trilatère, comme vous voulez. Mais c'est aussi que chaque arête, elle appartient à 2 triangles. Donc je dois bien dire qu'il y a 3 fois plus qu'il y a de nombre de triangles, mais je dois diviser par 2, parce que chaque arête appartient à 2 triangles. Et du coup, si dans ma formule précédente, qui était la formule que j'avais obtenue en ajoutant toutes ces formules-là, si je remplace le nombre de triangles par ce qui m'a été là, en fait, je me retrouve miraculeusement en ayant dans le membre de gauche 2π que multiplie le nombre de sommets, je l'avais déjà, et puis en jouant sur le nombre de triangles, je me trouve le nombre de sommets moins le nombre d'arêtes plus le nombre de triangles. Donc, merveille, à gauche, j'ai ce fameux invariant de l'air Poincaré, qui est toujours un entier, et à droite, j'ai l'intégrale de la courbure. Donc, on voit cette chose assez fantastique, que dans la géométrie d'une surface globale, eh bien, j'ai une quantité topologique qui me dit ce que vaut l'intégrale de la courbure. Et donc sur la sphère, ça me dit en particulier, puisque ce nombre vaut 2, ça vaut donc 4π, donc quelle que soit la façon dont je courbe la sphère, alors vous pouvez y penser quand vous regardez le ballon, il a toujours une partie où il est à courbure positive. Même si je rentre dedans, je vais créer des zones à courbure négative, mais il y aura toujours la zone extérieure qui sera à courbure positive. Et en fait, du point de vue de l'intégrale, elle dominera toujours les autres zones. Sur le tore, qu'est-ce qui se passe? Eh bien le tore, il est soit plat, donc c'est un morceau de l'espace euclidien, mais je vous l'ai montré tout à l'heure. Je vous ai dit que le tore, on pouvait le voir comme une partie de l'espace euclidien où j'identifiais des côtés, mais je peux le faire abstraitement. Je ne suis pas obligé de le faire en faisant la couture. Ou alors, il a forcément des courbures des deux signes. Et alors là, pour le coup, quand j'ai fait ma couture, on voit bien qu'il y a des zones du tore qui sont à courbure positive. Voilà. Un petit pas qui veut plus... Vous voyez, ça, c'est une zone qui est à courbure positive. Par contre, je suis à l'intérieur du tore, vous voyez bien, c'est des zones, au contraire, j'ai un cercle dans ce sens-là et un cercle dans l'autre. Donc, il y a des zones à courbure négative. Le maximum est positif et le minimum est négatif. Donc, ça, c'est complètement contenu là-dedans. Juste quand même pour vous dire que dans le XXe siècle, on a démontré des théorèmes importants qui ne se rapportent pas aux espaces à 2 dimensions, mais à plus de dimensions. Je vous cite simplement 2 théorèmes qui sont parmi les plus beaux de ce siècle en géométrie. Théorème de Marcel Berger et Wilhelm Klickenberg, qu'on appelle souvent le théorème du pincement, qui dit la chose suivante. Imaginez que vous intéressez un espace à courbure et dont la courbure est comprise entre les nombres 1 et 1 quart. Donc il est partout à courbure positive, mais une courbure qui est comprise entre 1 et 1 quart. Donc ce n'est pas forcément constant. Si c'était la courbure constante 1, je sais que ce serait une sphère, mais ça varie entre 1 et 1 quart. Eh bien en fait, cet espace, je ne sais rien de lui, si ce n'est cette hypothèse qu'en chaque point, sa courbure a est dans cet intervalle que j'ai fixé, eh bien c'est automatiquement, du point de vue de la topologie, une sphère. À une petite nuance près, c'est que ça peut être un quotient de la sphère par l'identification des points antipodes. Et alors la chose assez merveilleuse, c'est que la démonstration d'un tel théorème, ça se fait à coup de théorème de comparaison des triangles. Bon, donc on réutilise de la trigonométrie dans les espaces, des espaces courbes. Un autre théorème superbe, qui est un théorème dû à Jacques Adamard et Élie Cartan, qui est donc le théorème suivant, c'est que tout espace à courbure négative est revêtu, excusez-moi cette horrible faute d'orthographe, topologiquement par un espace euclidien. Autrement dit, la topologie d'un espace à courbure négative est extrêmement simple. C'est vraiment à peu près le dessin que je vous avais fait voir de Coxeter et Escher. Autrement dit, c'est vraiment quelque chose que je peux assembler comme un pavage d'un autre espace. Et alors, les élargissements des concepts s'est produit récemment de façon considérable. Jusqu'à maintenant, je ne vous ai parlé que de surfaces régulières. En fait, les mathématiciens se rendent compte que c'était fondamental d'avoir moins de régularité, donc d'avoir un nouveau cadre beaucoup plus souple, en particulier dans les travaux d'Alexandrov et de Gromov. On a seulement la notion de métrique, on en a absolument besoin. On a besoin des plus courts chemins, comme je vous les ai présentés, et on a besoin de contrôler la longueur des côtés des triangles. Et en fait, dans des espaces où on sait faire ces trois choses, même s'ils sont beaucoup plus compliqués que les surfaces habituelles, on sait faire encore de la géométrie des espaces courbes. Et donc typiquement, on peut faire ça sur des graphes. Et typiquement, on peut comprendre la géométrie, par exemple, du cyberespace, c'est une chose qui est tout à fait importante du point de vue de la redondance des connexions, à partir d'analyses géométriques, tout à fait celles des espaces courbes. Une autre chose qu'on peut comprendre aussi, que je montre sur ce dessin, qui est l'analyse de la croissance. Donc voilà un espace pour lequel on peut faire de la géométrie comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, qui ressemble étrangement à l'espace hyperbolique. Vous voyez que c'est un graphe dans lequel, toutes les fois que j'arrive à un sommet, je divise en deux, mais en deux segments qui ont une longueur moitié du précédent. Et si je continue ça, vous voyez que ça vous donne une image qui ressemble étrangement au dessin d'Escher tout à l'heure. C'est-à-dire, je m'en vais à l'infini, mais en plus en essayant une sorte d'explosion, de divergence exponentielle. Donc, mon dernier transparent sera une sorte de conclusion sur ce que j'ai essayé de vous montrer des mathématiques, à savoir, d'une part, que les mathématiques donc, ont comme fonction de créer des concepts. Ce que j'ai essayé de vous raconter, c'est l'histoire de la création du concept de courbure. Les mathématiques sont ici un réservoir de modèles. Vous avez vu que ce soit les physiciens, que ce soit les informaticiens aujourd'hui avec les problèmes de réseau, que ce soit bientôt les biologistes avec les problèmes d'analyse génomique, ont besoin de modèles géométriques et de modèles géométriques qui sont de plus en plus sophistiqués, de plus en plus compliqués. Mais les mathématiques sont aussi génératrices de questions. Vous avez vu quand même que tout ça est né de cette question un peu stupide de l'indépendance de l'action des parallèles d'Euclide. Et les efforts de Gauss, c'était vraiment des efforts purement d'un savant, sans relation aucune avec le monde concret. Mais malgré tout, j'espère vous avoir montré quand même qu'elles étaient tout à fait vivantes dans la société et que le nombre de domaines dans lesquels ces modèles peuvent être utilisés sont extrêmement divers. Et donc, les mathématiques ne sont pas du tout coupées de la sollicitation qu'elle peut recevoir de la physique, de l'informatique ou de la biologie. Merci.